Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
C'est pas difficile à trouver. Vous avez pas un GPS ?
Faites demi-tour dès que possible.
Quand vous êtes dans le lavoir, vous rentrez, premier rond-point tout droit, deuxième rond-point tout droit, un peu à gauche, mais surtout pas à droite.
Faites demi-tour.
D'accord ? Et puis après, il y a un virage qui tourne sur la gauche. Et mon allée, c'est l'allée à l'angle de laquelle il y a une maison avec une énorme antenne.
Campagnes urbaines, Camille Jusa, Mathias Weiss, Thomas Clé. Rouler dans Chevry, c'est une expérience proche de l'hallucination. Il faut imaginer un lotissement géant, 2000 maisons, réparties dans une dizaine de grandes boucles. Sauf qu'il n'y a que 10 modèles de maisons ici, et ça donne une étrange impression d'évoluer dans un décor irréel. Chevry, c'est une des toutes premières opérations de lotissement des années 70, à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, pour les cadres sup qui commençaient à affluer autour du plateau de Saclay. Ce qui m'a amené ici, outre l'étrangeté d'imaginer que 10 000 personnes partagent les 10 mêmes maisons, c'est que Chevry est né exactement en même temps qu'une des dernières grandes cités de la région parisienne, à Chanteloup-les-Vignes, une cité géante qui n'a jamais cessé depuis d'enquiller des difficultés. Aujourd'hui, Chevry et Chanteloup ont toutes les deux 50 ans, et en traversant ce plateau très verdoyant, j'ai vraiment l'impression d'être à l'origine de ce rêve pavillonnaire, quand la France a tourné le dos aux grands ensembles. Et je me dis qu'ici, quelque chose de ce rêve va m'être dévoilé. Épisode 3, sur les traces de l'utopie.
C'était en 1971 et on a entendu parler, on était dans un appartement et je travaillais à l'époque au CNRS, donc à côté, et on a entendu parler qu'il allait y avoir une résidence à Chevry, etc. Donc on est monté voir et on a acheté tout de suite parce que moi je voulais absolument être là, au bord du champ, bien orienté, ce type de maison, etc.
Daniel Rousseau, allée de la pièce du lavoir.
Moi je suis arrivée la première dans mon quartier en octobre 1973. J'ai eu 4 enfants ici et ils ont été à l'école à Chevry, ils ont été au collège à Chevry, ils ont été au lycée à Chevry. Et si vous avez dû remarquer le nom des quartiers qui est un peu bizarre, bah, c'est des noms de lieux-dits puisque c'était des agriculteurs. Donc je pense moi qu'il y avait une mare quelque part puisqu'il y a le champ de la mare, il y a le lavoir, les 32 arpents, tout ça c'est des noms un peu à consonance agricole. Alors au départ le promoteur voulait une résidence dite à l'américaine. Ça devait être ouvert, comme vous l'avez vu en arrivant chez moi. Mmh. Chez moi, il n'y a pas de clôture et ça se passe très bien. Mais vu la mentalité du français, c'est devenu différent en ce sens que les gens veulent des haies d'un mètre cinquante ou deux mètres, alors que normalement, il ne devait pas y en avoir. Ils veulent des portails. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ça, c'est un peu dommage.
Vous êtes né dans la vallée ?
Ah non, pas du tout. Moi, je suis né à Nanterre. Donc après, j'ai habité un peu partout en France.
Florian Laporte, allée du Champ de la Mare.
Ensuite, je suis allé travailler à Paris, donc j'habitais dans un petit studio dans le 15e, un autre dans le 16e. Et puis après, je suis revenu, une fois que ma femme m'a annoncé qu'on allait avoir un enfant, finalement, le premier, on s'est dit, on va avoir du mal à l'élever dans le bitume parisien. Finalement, on avait envie d'un peu de verdure et c'est pour ça qu'on s'est un peu écarté.
Et alors, vous avez eu avec la maison les prospectus qui vendaient Chevry 2, c'est ça? Qu'est-ce que c'est?
Alors voilà, en fait, les anciens propriétaires qui avaient acheté la maison au moment de la construction de Chevry avaient gardé ces plaquettes commerciales, donc ces plaquettes originales de l'époque. Ça fait très cliché ce prospectus parce qu'on voit bien le style des maisons américaines un peu dans les quartiers typiques, comme on peut voir souvent dans les séries en fait. Hein.
Le prospectus de vente de Chevry, c'est une plongée dans les années 70. Sur une double page, il y a d'abord cette promesse. Ces maisons de campagne feront de parfaites résidences principales. On nous y présente les 10 modèles dont les noms sont déjà un voyage en soi. Les maisons s'appellent Rambouillet ou Mansart pour ceux qui sont plutôt au grand siècle, ou bien Louisiane ou Kyoto pour ceux qui rêvent d'ailleurs.
Et du coup, on voit les familles heureuses autour d'une table, enfin, en train de jouer dehors. Enfin, voilà.
Bon, ce sont des maisons qui n'ont d'exotique que le nom. Sur les photos, tous les modèles affichent crépi blanc et toit à double pente. Il y a bien un porche à colonnes pour évoquer la Nouvelle-Orléans ou un toit qui rebique pour figurer le Japon. Mais ce n'est pas tellement ça qui compte. Le plus important, c'est, sur toutes les photos, la mise en scène du bonheur familial assorti à la maison. Des couples aux pantalons pas def boivent des drinks sous des parasols. Des enfants jouent sur une pelouse incroyablement verte. Sous le haut-vent du garage, une R16, signe de réussite de cette classe moyenne en train d'inventer ses rites et ses manières de vivre au début des années 70. La brochure propose bien sûr des idées de déco pour les salons ou grandes baies vitrées, présente le futur golf, les nombreux équipements sportifs et le clubhouse. Bref, toute une vie nouvelle sur ce plateau d'Île-de-France.
Et ici, donc, on est dans une Rambouillet 2.
Avec 3 salles de bain, un garage de voiture, il y a 2 dressings, enfin, je ne sais plus. Voilà, en fait, ce sont des très grandes maisons. Mais globalement, en fait, toutes ces maisons, même s'il y en a qui sont un peu plus petites, proposent quand même des belles prestations avec des grands salons assez lumineux, un peu comme ici.
Nous avons aperçu le lotissement Grand Siècle pour la première fois depuis la hauteur courbe du viaduc sur lequel nous étions montés pour repérer les environs. Nous avions gravi les pentes de l'échangeur, dont les spirales ascendantes nous étaient apparues de loin, échevaux élancés de ponts jetés les uns par-dessus les autres, dans l'un de ces plans apparemment inextricables qu'affectionnaient les derniers sédentaires. Sur le bitume craquelé subsistent, à demi effacées, d'immenses flèches blanches indiquant d'inconnues directions. La silhouette des toits identiques et paisibles se découpait au loin sur la lande, ensemble rouge sous le ciel gris. Nous convînmes d'aller y trouver un abri.
Fanny Taillandier, vous avez... il y a quelques années, écrit « Les États et Empires du lotissement Grand Siècle », qui est une sorte de fiction d'après l'Apocalypse, on pourrait dire, qui met en scène un groupe de nomades qui vient sur les ruines d'un lotissement. Pourquoi vous avez décidé de travailler sur un lotissement pavillonnaire ?
Je crois que voilà, il y avait cette forme qui est toujours la même, qui est à la fois très très monotone et qui est toujours un petit peu variée parce que c'est jamais exactement le même lotissement qu'à côté, même si ça se ressemble toujours. Et puis il y avait aussi le mystère de qui habite dedans, parce que en fait les lotissements on en voit partout, on en parle souvent, en général on en dit plutôt du mal, mais finalement qu'est-ce que désirent ou qu'est-ce que rêvent les gens qui décident d'habiter là, et ce qui est le choix d'une écrasante majorité des Français hors des très grandes villes, quoi. D'habiter dans du neuf, d'avoir sa maison individuelle, etc. C'est quelque chose de très ancré, donc j'avais envie d'aller creuser ce mystère-là, de savoir voilà quel était le geste. Qu'est-ce qui pouvait pousser dans une vie à désirer ça ? Et qu'est-ce que cette manie d'en construire partout, qui n'est pas le fait des individus, mais bien pour le coup des pouvoirs publics, disait aussi inversement du désir de ces pouvoirs vis-à-vis de leurs administrés, quoi. Qu'est-ce qu'on attend d'eux quand on les incite à se mettre là plutôt qu'ailleurs ?
De fait, le lotissement chercha à enraciner des déracinés. il est acquis que les habitants du nouveau village, construit sur des champs, venaient nécessairement tous d'autre part et qu'ils cherchaient, en investissant ces pavillons, à reproduire le geste immémoriel du lopin de terre personnel, dernière expression possible de l'égalité dans l'ère foncière et de la foi des hommes, leur rêve.
C'est sûr que les lotissements sont en général construits sur des terres agricoles qui n'ont donc jamais supporté de construction auparavant. Donc ils sont en dehors de l'histoire bâtie humaine. Et quand on va habiter là, bah fatalement, puisqu'il n'y avait rien avant, on vient forcément d'ailleurs. Donc des fois de pas très loin, mais en général de beaucoup plus loin, surtout dans le cas de la banlieue. Et en fait, c'est un geste que je trouve très touchant, en fait, qui est de devenir propriétaire de quelque part avec un jardin. C'est vraiment c'est ce geste de se sédentariser, en fait, même si c'est dans une sédentarité artificielle ou sans racines.
François et Mireille Puyobreau, Allée de la Feuillarde.
Nous remontions de Périgueux, d'une période en usine. On a passé une semaine complète à faire la ligne de RER et en s'arrêtant, en tapant aux loges de concierge, aux agences proches des gares de RER. Et on est arrivé au bout de la ligne de RER.
Et en fait, c'était tout à fait par hasard parce qu'on n'avait rien trouvé qui nous convenait. Et on est monté sur le plateau de Chevry, mais on n'avait aucune idée de l'endroit où on arrivait en fait.
Moi, ça m'a un peu surpris. En fait, au départ, j'avais l'impression que ça faisait un peu ghetto pour cadre. J'ai trouvé que la population était vraiment très homogène, parce qu'en plus, on arrivait de Périgueux. Et c'est vrai qu'à Chevry, je trouvais ça très, très curieux. Beaucoup de gens, à peu près du même âge, même milieu socio-professionnel. C'était curieux. Donc ça, vraiment, je me suis plu immédiatement à Chevry. On avait trois enfants, aussi trois jeunes enfants. Donc l'école était tout près, petit commerce tout près, on avait tout.
Et puis le caractère intéressant dans la conception du lotissement, c'est les liaisons douces. C'est-à-dire que pour aller faire les courses, pour les enfants, pour ramener les enfants à l'école, pour qu'ils y aillent tout seuls, d'ailleurs, souterrain, pas de risque de traverser de rue, ou très peu. Donc une conception de lotissement et de la vie, de la vie locale tout à fait intéressante.
Je suis arrivé à Chevry quand j'avais 2 ans. J'en suis parti quand j'en avais 11.
Xavier Puyobreau.
Je n'avais pas du tout conscience que Chevry était basé sur les suburbs à l'américaine. Ça me semblait tout à fait normal. À la fin de l'école, les mamans venaient chercher leurs enfants, moi y compris, avec des pains au raisin ou des glaces dans des cabriolets. Alors moi, j'avais pas de cabriolet, mais ça me paraissait tout à fait normal. Je me suis rendu compte que c'était pas exactement le cas. Quand j'ai grandi, en fait, quand j'ai déménagé, que je suis descendu dans le bas de Chevry, où là, on est sur des lotissements beaucoup plus à la française. Mais j'ai passé vraiment toute mon enfance dans un espèce de lieu un peu, je vais pas dire stérilisé, mais protégé de tout.
Je vois même pas les numéros. Je vais me perdre en fait. 66.
Il y avait donc ici un principe directeur qui désormais a disparu. Un plan. Or ce plan est remarquable. C'est lui qui nous a tout d'abord envoûtés. Les rues du lotissement Grand Siècle ne mènent jamais qu'à elles-mêmes, dans une organisation fractale. Une boucle desservant des boucles, qui elles-mêmes se divisent en boucles, jusqu'à desservir tous les pavillons. La plus grande boucle était reliée à une voie rapide, qui conduisait à l'autoroute via une série de ronds-points, ceux-là même par lesquels nous sommes arrivés ici.
On a l'impression qu'ils ont dupliqué, ils ont fait un copier-coller en fait de raquettes. En fait, on appelle ça des raquettes, donc des petits ronds-points avec des maisons partout autour.
Florian Laporte.
Et ils l'ont copié-collé tout autour du golfe, voilà. Et du coup, ça fait des maisons partout qui se ressemblent toutes un peu. Voilà, donc ça a son charme, mais que ça aussi, c'est un peu étrange au départ. Alors au début, ça m'a d'ailleurs un peu perturbé parce que je me perdais. Alors quand je partais me balader à pied, comme vous, je me suis perdu. En fait, toutes les maisons, il y a une dizaine de maisons types, et toutes les allées se ressemblent. Et donc, en fait, très vite, on est dans un labyrinthe, on ne sait plus si on est passé par là ou pas, on ne sait plus vraiment où on est. Maintenant, ça y est, au bout de 10 ans, on arrive à se repérer, mais c'est, au début, vraiment, je me perdais.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une nature labyrinthique. Les chemins, notamment les passerelles dont on parle entre résidences, sont habituellement tortueuses.
Xavier Puyobro.
Il y a des rambardes en bois qui évitent que les scooters passent, par exemple. Mais à l'intérieur de ces petites passerelles, il y a des mini-rocades. Alors, je ne sais pas quel but elles avaient, si c'était un but esthétique ou autre chose. Il y avait des mini-rocades avec des buissons qui étaient censés peut-être matérialiser un sort de rond-point. Il y avait des espèces de rond-points pour piétons. À l'intérieur même, c'était assez étrange. D'ailleurs, je rêve encore. Je rêve encore de ces petites rocades pour piétons entre les résidences. Et c'était très labyrinthique. Il y avait un côté kafkaïen. On pouvait s'y perdre. Enfin, et moi, je me suis perdu plus d'une fois. Au tout début, quand j'arpentais Chevry, c'était tout à fait courant de se perdre, justement, et de ne pas savoir dans quelle résidence on allait déboucher. Et ça a pris plusieurs années pour vraiment connaître le terrain.
J'avais été interviewer les habitants de ces lotissements.
Fanny Taillandier.
Et il y en avait plusieurs qui m'avaient dit en rigolant que... Enfin, en riant, mais quand même, ils me l'avaient tous dit qu'au début, ils avaient beaucoup de mal à faire venir des gens parce que les gens se perdaient, en fait, ne trouvaient jamais leur maison. Et c'était donc dans les années 70, donc il n'y avait pas les téléphones portables, etc. Et donc, il y avait ces invités qui tournaient dans les rues en boucle et puis qui voyaient les maisons qui étaient toutes les mêmes et qui ne trouvaient jamais la porte où ils devaient frapper pour rejoindre leurs amis, quoi. C'est encore une fois l'inverse de la vision traditionnelle, on va dire, de ce que c'est que la ville, qui s'organise en fait sur des repères. Donc que ça soit la place, que ça soit le monument ou l'église ou le lieu collectif, quoi. Voilà, il y a quand même des marqueurs dans l'espace qui permettent de s'y repérer un peu. Et le lotissement, en fait, comme il annule toutes les autres fonctions que résidentielles, bah en fait, il y a rien pour rythmer le paysage, quoi. Il n'y a que des maisons. Et il y a cette idée que tout le monde mène la même vie, puisque en fait, toutes les maisons sont quand même conçues sur un ou deux garages, une chambre parentale et les chambres pour les enfants. Donc très clairement, quand on est là, ce qu'on a à faire, c'est être en couple, faire des enfants et avoir une voiture, quoi. Et c'est tout ce qu'on demande aux gens, quoi. Et en même temps, c'est quand même une grande exigence. Enfin, c'est beaucoup demandé, quoi.
Alors, l'avantage également, je pense, surtout pour les enfants, c'est le paradis des enfants.
Daniel Rousseau.
Pas de danger, pas de route. Il y a une seule route, vous avez vu comment c'est conçu. Il y a une route qui fait tout le tour et sinon on peut traverser dans les quartiers. C'est pas dangereux. Les écoles, eh ben, c'est le paradis, vous pouvez aller à l'école tout seul.
Après l'école, je prenais mon BMX. C'était un petit peu comme Stranger Things. J'allais retrouver mes copains et on allait jouer. J'avais la permission de 19h, je crois. Et j'avais comme ça un quartier libre pendant 2 à 2h30. Où je pouvais vaquer à mes occupations. Je passais du terrain de golf au terrain de bois. Il y a des grands bois à Chevry. On pouvait aller construire des cabanes, faire toutes les bêtises possibles, allumer des feux, fumer des cigarettes que j'avais piquées quand j'avais 10 ans. On allait fumer dans le bois.
Le modèle du lotissement, il est fait pour l'enfance. Parce que c'est fait pour la... En fait, ça va dans l'optique de la société de croissance, qui est une société qui encourage la croissance aussi démographique, quoi. Et donc, il y a vraiment ce truc où il faut que les enfants soient bien, que les enfants soient bien nourris, qu'ils prennent l'air, qu'ils aient une activité physique, et puis qu'ils aillent à l'école, et puis qu'ils soient bien lavés, etc. Enfin, bon, tout un ensemble, mais qui ressemble... Enfin, du coup, avec un regard adulte, je me dis que c'est presque un peu cauchemardesque, parce qu'on dirait presque une sorte de grand élevage en plein air. Mais voilà, je pense que pour les enfants, c'est génial, parce qu'il n'y a pas de circulation, donc tu peux faire du vélo dehors, tu peux jouer au ballon dans la rue. Tout le monde a le même âge, parce que comme les lotissements sont construits d'un coup, les couples qui emménagent ont des enfants à peu près dans les mêmes années, donc t'as plein de copains. Après, quand j'avais été enquêtée, les adolescents qu'on avait rencontrés étaient là, non mais... Ouais, c'est bien, c'est vert, mais on n'en peut plus, quoi, parce que, bah, en fait, entre les 12-13 ans, où on commence à avoir d'autres envies que de jouer au ballon, et le moment où on peut avoir un scooter, une mobylette ou une voiture, en fait, il y avait vraiment cette période de l'adolescence où on ne peut pas sortir, quoi, et où on est enfermé dans un décor d'enfance, justement.
Maintenant, avec la nouvelle technologie, on crée des groupes WhatsApp, donc on sait en permanence où ils sont.
Florian Laporte.
Ils vont voir leurs copains, ils vont jouer au foot, ils vont faire du vélo, ils font beaucoup de VTT dans la forêt, ils jouent beaucoup dehors, ils vont faire des cabanes, ils vont faire beaucoup de choses. Mais ensuite, après la vie de grands adolescents, finalement presque adultes, s'ils n'ont pas de moyens de transport, je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont vite s'ennuyer quand même. Enfin, je sais pas.
En d'autres termes, le plan du lotissement devrait être l'expression parfaite de la vision que le pouvoir se fait de son rôle et de son peuple. Il devrait être possible de déduire, sous la forme d'une équation média égale message, la vision politique qui sous-tendait la réalisation du lotissement. Si le média est un échangeur, alors le message est le guidage strict des mouvements des sujets. Si le média est un rond-point, alors le message est celui de la distribution rationalisée des sujets. Si le média est un lotissement desservi par une boucle revenant toujours à son point de départ, alors le message est que l'absence de progression des sujets est souhaitable. Si le média est un ensemble de boucles fractales desservant des pavillons identiques, alors le message est que tous les sujets sont considérés comme relevant d'un seul et même sujet type.
Ceci étant dit, je m'étais amusé à emmener à l'époque ma future femme à Chevry, justement pour lui montrer où j'avais vécu.
Xavier Puyobro.
Ce qui moi me sautait aux yeux, c'est l'impression d'être dans un musée. Alors ça doit certainement faire ça à beaucoup de gens quand ils reviennent sur leurs traces, sur les traces de leur enfance. Je me suis dit, rien ou presque n'avait bougé. En grandissant, maintenant je trouve ça un petit peu triste. Vous achetez une maison qui doit être relativement chère, qui doit même être extrêmement chère maintenant. Maintenant que tout ça s'est développé, par contre vous avez pas grand chose. Vous avez une maison qui est tout à fait standardisée, qui est quasiment la même que votre voisin. Vous habitez sur le terrain de votre voisin quasiment, et vous avez un terrain qui est absolument minuscule. Toutes les maisons, je crois, ou presque, ont des vis-à-vis avec leurs voisins.
C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est quand même des résidences de vie entre guillemets collective. Donc il y a une espèce de, il y a un principe de bien vivre ensemble qu'il faudrait respecter, ce qui n'est pas toujours le cas. Et moi, en résumé, je dis toujours Chevry, ça peut être ou le paradis ou l'enfer. Ça peut être invivable parce qu'on est quand même les uns à côté des autres. Il y a quand même une vie semi-collective, c'est évident.
Peut-être le pavillon fut-il pour vous, homme du siècle 21, une incarnation de cet objectif édénique et vague de trouver le repos. Vous étiez les enfants de l'histoire, celle qu'on raconte. Vous y jouiez un rôle, c'était comme ça. Vous étiez l'exode rural, vous étiez l'urbanisation, vous étiez le boom démographique, il vous fallait bien faire avec. Vous étiez venu de toutes les provinces, de toutes les campagnes désertées et de toutes les villes en déclin, escadrons de travailleurs prêts à beaucoup pour gagner leur place au soleil. Vous aviez laissé derrière vous, un siècle durant et sans vous retourner, les lieux antiques de vos origines obscures. Pour cela, il vous avait fallu tenter votre chance. Brevet, diplôme, entretien d'embauche à l'appel, rendez-vous avec des amis d'amis, histoire d'un soir, avoir l'air attirant, compétent, évoluer, progresser. Il vous avait fallu faire vos preuves et des plans de carrière, parler mariage, s'engager, suivre une formation de mise à niveau en informatique, en gestion. Vous aviez fait tout cela, ce que la marche du monde vous dictait, et parfois vous regardiez le mur derrière l'interlocuteur concentré, en cravate ou tailleur qui vous aurait embauché, plus cher, plus longtemps, et vous vous demandiez tout bas en votre fort intérieur, mais quand est-ce que tout ça va s'arrêter, tout ce merdier, à la fin?
Comment et pourquoi les lotissements pavillonnaires se sont-ils répandus comme des taches d'huile autour des villes et dans les campagnes de France? Il paraît que c'est la faute au désengagement de l'État, à la décentralisation et surtout aux maires, qui auraient été pris d'une fièvre bâtisseuse. Dans le prochain épisode, on part à côté de Nantes, demander des comptes et surtout comprendre. Merci à Yael Sadat et aux habitants de Chevry. Lecture, Juliette Livartowski. Campagnes urbaines est un hors-série Programme B de Camille Jusa avec Mathias Weiss, réalisé par Thomas Plé. En partenariat avec le PUCA,
le plan urbanisme construction architecture du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Coordination, Hélène Peskin, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.